carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quels sont les doutes, les questions et les points de vue des académiciens sur la création d'aujourd'hui ? Comment se situe-t-il ? Désireux de faire partager au public du monde de l'art le fruit de leurs réflexions, le président de l'Académie des Beaux-Arts, François-Bernard Michel, a organisé une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts pendant laquelle 5 de ses confrères ont pris la parole pour lancer le débat. Canal Académie vous propose d'écouter la 4e de ses interventions. Dans cette émission, vous pouvez entendre l'intervention du correspondant dans la section de photographie de l'Académie des Beaux-Arts, Bernard Perrine, et les commentaires et remarques de Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, modérateur des débats dans le cadre de cette journée exceptionnelle intitulée « Une journée à l'Académie ». C'était le 28 novembre 2012 à l'Institut de France. Retrouvons Guy Boyer et Bernard Perrine en grande salle des séances. Le texte de Bernard Perrine s'intitule « La photographie entre modèle et banalité ».
Conférence suivante, celle de Bernard Perrine sur la photographie. Et là aussi, un titre un peu provocateur, « Entre modèle au pluriel et banalité ». On va parler donc photographie maintenant.
Oui, alors, vous avez bien souligné, les modèles sont au pluriel, la banalité est au singulier. Et comme vous l'avez souligné, le titre peut sembler provocant, outrancier ou simplificateur. En réalité, il n'a pour but que de synthétiser les questions que l'on est en droit de se poser sur la place et le rôle de la photographie dans un monde qui a transgressé le sens des images, fussent-elles photographiques ou non. C'est pour cette raison que, contrairement à mes convictions, j'ai utilisé pour le titre de cette contribution le terme « photo » plutôt que le mot « photographie ». Alors, les modèles, ce seraient les différents courants et contre-courants que la photographie a forgés tout au long de son développement et de son histoire. Depuis la première photographie de Joseph Nicéphore Niépce, le point de vue du gras, propriété maintenant de l'Université du Texas à Austin, et qui, exceptionnellement, pour ceux que ça intéresse, est exposé à l'heure actuelle à Mannheim, au musée Raes Engelhorn, Forum für Internationale Photographie, jusqu'au 6 janvier 2013. La banalité, ce sont les quelques 800 milliards de clics qui ont été réalisés en 2012 par les différents matériels qui permettent de capturer des images. Ou alors, les 7 milliards de photos, ou plutôt d'images, téléchargées chaque mois sur Facebook en 2011. Ou encore, toutes celles publiées sur Flickr en 24 heures, comme le montre l'installation sur la diapositive réalisée par le commissaire d'exposition Eric Kessel au FOM d'Amsterdam. Alors, on peut demander à quel modèle se fier. Sans s'attarder longuement sur les origines de la photographie, nous en dirons simplement deux mots pour rappeler que sa reconnaissance et le don de son invention au monde se forgea entre ses murs le 19 août 1839. L'autre mot sera pour souligner que cette reconnaissance se fit par l'Académie des sciences qui, dans les décennies qui suivirent, enregistra ses premiers développements. Alors que dans le même temps, les milieux artistiques, sous la bannière de Jean-Auguste Dominique Ingres, se déchaînaient contre le nouveau médium. La plaisanterie, c'était « c'est beau la photographie, c'est très beau, mais surtout il ne faut pas le dire ». Malgré quelques textes éclairant ses débuts, en particulier ceux de Paul-Louis Roubert, il y a encore beaucoup à écrire sur ce socle qui constitue le premier modèle et qui, depuis ses origines, a fait pencher la photographie vers les univers scientifiques. Il y aurait beaucoup à dire sur le fait que la photographie est partie dans l'unicité du modèle et que, par rapport à ce que pensaient Nicéphore Niépce et William Henry Fox Talbot, la multiplication devait l'emporter sur la capture. Primauté du cardinal d'Amboise, que vous voyez sur cette projection, sur le point de vue du gras que nous avons vu au début. Le cardinal d'Amboise était effectivement une des inventions de Niepce pour multiplier les, pas les photographies, mais pour multiplier les reproductions. Donc, vous voyez ce débat qu'il y a eu chez Niepce entre la multiplication de la photographie et l'unicité de la photographie ensuite, de l'appareil photographique qui a été conçu par Daguerre.
Pardon, est-ce que ça vous ennuie? Je suis désolé, mais j'ai pas tout bien compris, là. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer le cardinal d'Amboise? Là, j'avoue que j'ai pas compris.
Alors, la priorité de Niepce a été un travail sur la reproduction. Mmh. C'est-à-dire qu'il a pris le cardinal d'Amboise, qui est donc, le cardinal d'Amboise est une gravure d'Isaac Briot, qu'il a transformé en héliographie par un procédé sur lequel je ne vais pas rentrer ici, mais par rapport à des huiles. Donc, ce qui importait surtout à Niepce, c'était la multiplication d'un document, c'est-à-dire la multiplication la plus grande possible. Tirage, ce que l'on veut. Et par contre, la deuxième trouvaille de Niepce, la deuxième recherche, puisqu'on verra tout à l'heure, cet inventeur est absolument génial, sa deuxième recherche a été sur la capture. C'est-à-dire que d'un côté, on reproduisait une gravure, de l'autre côté, on cherchait à capturer la réalité. Et c'est donc la première photographie que vous avez vue tout à l'heure qui a été faite de sa maison près de Chalon-sur-Marne, au Gras. La photographie a été faite du deuxième étage de la maison, et à l'heure actuelle, les chercheurs se battent pour savoir combien a duré le temps de pose. On pense, d'après le tournant des ombres, qu'il a fallu à peu près presque une journée de temps de pose pour réaliser cette première photographie. Donc vous voyez d'un côté deux inventions, une qui a mené à l'appareil photographique, à la capture, et l'autre qui a mené à la reproduction. La reproduction, je peux en dire deux mots puisque vous m'avez posé la question, la reproduction a été très loin puisque la reproduction a donné lieu, après les différentes étapes, à la microlithographie. Et la microlithographie, ça a été, pour ainsi dire, le précurseur des circuits imprimés. Et alors, si je veux pousser plus loin, les circuits imprimés ont mené au capteur, donc à la photo numérique. Donc, vous voyez, on peut aller très loin, effectivement, et moi, j'ai fait des recherches là-dessus à l'heure actuelle, parce que cette seconde recherche de Niepce a été un peu éclipsée par rapport, effectivement, à sa découverte sur la capture et la photographie. Alors, pour répondre à vos questions, si vous en avez le courage, on trouverait justification dans les nombreux documents concernés dans la bibliothèque de l'Institut de France, ou alors dans des publications comme La Lumière, le bulletin de la Société française de photographie, ou encore dans le British Journal of Photography au Royaume-Uni. Un point de vue assez spécifiquement français voudrait rejeter toute influence des développements technologiques sur la création, et il est vrai que dans notre pays, les recherches universitaires sur ces sujets sont quasiment absentes. C'est d'ailleurs ce même cartésianisme qui exclut de l'université et des académies toute recherche sortant de la sphère bien pensante, alors que ces dernières font l'objet d'études non seulement hors de nos frontières proches, mais surtout outre-Atlantique, dans les pays de l'Est et au Japon.
Excusez-moi à nouveau de vous interrompre, mais c'est quoi ces recherches sortant de la sphère bien pensante?
Je vais pas effectivement rentrer là-dedans parce que j'ai, en dehors de mes connaissances en photographie, j'ai un doctorat en pharmacie et des doctorants en psychologie, en psychophysiologie comparée, etc. Et j'ai été amené effectivement à comparer des recherches dans la sphère bien pensante, c'est-à-dire la recherche cartésienne, qui fait qu'effectivement il faut des processus bien déterminés pour être admis dans ces académies et dans ces universités, alors que dans certains pays, on fait au contraire des recherches qui n'ont rien à voir et qui vont, bon, je pense par exemple à tout ce qui a été développé en Union soviétique sur les recherches à distance pour communiquer par des procédés que la science n'a pas encore trouvés entre les pays et des sous-marins en eau profonde, par
d'accord.
exemple.
Loin voilà. du cartésianisme
voilà,
dont vous parliez.
Cartésianisme, merci. Voilà, exactement. Alors, même si, je disais, pour quelques turiféraires, la photographie aurait existé avant la photographie, il y a eu des études là-dessus, notamment aux États-Unis, elle est bien fille de ce courant d'inventeurs dont je parlais tout à l'heure, qui, au début du 19e siècle, ont su marier les avancées de la chimie et les développements de l'optique. Si très vite des artistes et des créateurs donnèrent à l'invention ses premières directions artistiques, les améliorations apportées sur le procédé ont engendré des modèles et des recherches qui contribue à être révélée à travers diverses expositions et publications. Je citerai en particulier les primitifs de la photographie, le calotype en France de 1843 à 1860, la mission héliographique de 1851, ou encore, puisqu'elle existe actuellement, Modernis et modernité, les photographies du cercle de Gustave Legret, une exposition conçue par Anne de Mondenard et Marc Pagneux, et qui est présentée actuellement au Petit Palais jusqu'au 6 janvier 2013. Par la suite, à la fin du XIXe siècle, c'est l'invention de George Eastman en 1988, avec la fameuse phrase « Appuyez sur le bouton, nous faisons le reste », qui aura un effet sur l'esthétique et le sens de l'image. En effet, l'arrivée du snapshot rendra caduques les images figées et contraindra les magazines à utiliser des images plus proches de la réalité, faites par des amateurs. Au-delà des évolutions techniques qui ne manqueront pas de la modifier, on peut situer cette invention comme le point de départ d'un courant qui, jusqu'à une époque récente, liera la photographie à un support de diffusion destiné à informer, mais aussi comme le point de départ de l'industrie photographique qui sera jusqu'à ces dernières années un pilier de Wall Street et un premier vecteur de la banalisation de l'acte photographique. Ils constituent pour moi les premiers modèles. L'autre modèle, relié à l'art, pourrait commencer avec la photographie pré-raphaélite en Grande-Bretagne à partir de 1848, avec la dévotion du peintre John Ruskin à l'ultra-netteté du daguerréotype avant de rejeter ce dernier parce qu'il ne rendait pas compte du rendu des couleurs. La suite se fera par réaction et contre-réaction par rapport au modèle au pluriel photographique dominant. Le rapprochement avec le monde pictural donnera naissance au pictorialisme, lequel mènera en réaction le retour de l'ultra-netteté du groupe F64 aux États-Unis et la modernité et le Bauhaus en Europe. Ces derniers étant d'ailleurs les héritiers de développements technologiques permettant la liberté et la souplesse dans la prise de vue et surtout une explosion de l'image dans la page imprimée, rehaussée par les générations de graphistes venus des pays de l'Est. Après-guerre, le développement des magazines et des agences consacrera l'âge d'or du photojournaliste et son contre-courant, sanctuarisé en Allemagne par la subjective photographie du docteur Otto Steiner, qui, à son tour, engendrera par contre-coup l'école de Düsseldorf et sa frontalité. Alors, la remise en question des modèles. À la fin des années 60 aux États-Unis et des années 70 en France et en Europe, on assista à une remise en cause des modèles. Comme les arts plastiques, la photographie entra dans une période de déconstruction. Duan Michals osa le sacrilège d'écrire sur le précieux support au sel d'argent. D'autres osèrent le bouger, le flou de bouger, les inversions de couleurs, les déstructurations, les saturations ou désaturations, les développements à l'éponge, les lacérations ou déchirures du papier, sans oublier tous les artefacts, comme les contours des films Polaroid ou les coups de pinceau lors de l'induction d'un tirage aux platines laissé volontairement visible. Tous deviennent à la lecture plus importants que le sujet et tendent à en faire disparaître le sens original ou à le détourner au profit de l'artefact. À son insu, la photographie rejoignit en ce sens la fameuse doctrine du « étonnez-moi ». Elle a d'une certaine manière préparé son arrivée dans le marché de l'art en remettant en cause des critères qui étaient attachés au médium et surtout en faisant voler en éclats son statut de reflet de la réalité et de preuve intangible. Selon certains historiens, c'est à cette époque des années 1980-1990 que serait née une photographie dite plasticienne et qu'à travers ce biais, la photographie aurait développé des nouvelles formes inscriptibles dans l'histoire de l'art, au-delà et parfois même en dehors de l'histoire du médium. En 2012, ce type de photographie commence à apparaître comme faisant partie d'une histoire déjà dépassée, avec ses grands tirages et ses encadrements parfaits et onéreux. À la charnière des siècles précédents, c'est-à-dire les 19e et 20e, la photographie acquit son statut de vecteur de communication en venant brutalement prendre la place de la gravure, industrie florissante comme moyen d'illustration des publications, des journaux et des magazines. Un choc presque aussi brutal que celui qui, il y a une décennie, fit disparaître les ateliers de photocomposition au profit de la saisie informatique individuelle. Dans ce trafic des images, une loi a toujours été vérifiée depuis l'invention de l'imprimerie. Tout système qui a permis d'accélérer la diffusion de l'information s'est toujours imposé. On peut se demander cependant, à une époque où toute information peut être diffusée instantanément et par n'importe quel citoyen d'un bout à l'autre de la planète, si l'image photographique n'a pas perdu sa crédibilité. Malgré quelques falsifications dont les plus célèbres révèlent du trucage de l'histoire et de la propagande, pendant presque tout le XXe siècle, la photographie a été, de par ses assises scientifiques, lue comme un reflet de la réalité et comme une preuve. Une vérité qu'il était hors de question de remettre en cause jusqu'au jour où des techniques comme Photoshop sont devenues accessibles à tous et surtout lorsque l'on s'est aperçu que son statut de preuve pouvait être contesté. Ces remises en cause furent toujours plus flagrantes avec le changement de technologie qui fit basculer le médium dans le numérique à l'orée du XXIe siècle. En entraînant la fin de la magie et le secret lié à la révélation de l'image, la disparition du film a ouvert en grand la boîte de Pandore de la banalisation. En permettant la visualisation immédiate de l'image, le capteur a aboli l'attente et les peurs de l'échec, devenus pourtant de plus en plus rares avec le temps. Dans cette histoire, ce n'est pourtant pas la capture qui fut la plus révolutionnaire, mais la diffusion et la visualisation. Ce sont elles qui contribuèrent à changer le statut de l'image photographique. Liée à la mémoire, au souvenir, à la vérité, ce statut passa en quelques années à celui que les anglo-saxons désignent sous le thème de « entertainment », de « loisir », de « convivialité ». Le photographe Robert Polidori écrit à ce sujet « Digital is meant to forget, analog is meant to remember ». Les outils arrivant, la fonction principale de la photographie est statistiquement devenue l'échange, avec comme vecteur l'Internet et l'écran comme support. Avec l'argentique, l'image était tributaire d'un support dont elle s'est petit à petit libérée. Tout d'abord avec des techniques professionnelles lourdes et onéreuses, avant de pouvoir voyager où bon lui semblait, en un clic, et au prix d'un règlement d'une redevance aux opérateurs. D'autre part, au début du XXIe siècle, notre visualisation et la mémorisation des grands événements qui ont marqué notre société, voire notre histoire, étaient liées à des images fixes. On se souvient de la fillette photographié par Nick Hutt, courant brûlé par le napalm pendant la guerre du Vietnam. On se souvient de ce manifestant fuyant la matraque du CRS en mai 68, des photographies de Armstrong sur la Lune. Pourtant, tous ces événements avaient été filmés, mais on en retient des images fixes. Tout change en 2001. On ne retient pas les photographies pourtant impressionnantes de James Natchway, mais les images vidéo tournant en boucle des avions heurtant les Twin Towers du World Trade Center. À partir de ce moment, la référence mémorielle devient l'image animée vue sur un écran dont on extrait un photogramme pour la retraduire sur un support papier qui, pour ainsi dire, par inversion des rôles, devient malgré lui un vecteur de promotion de l'image animée. Par la suite, la guerre du Golfe nous fournira ces étranges images vertes enregistrées automatiquement. Les téléphones portables nous donneront les seules mauvaises images des attentats du métro de Londres. Et ces mêmes téléphones portables nous donneront les seuls témoignages des révolutions iraniennes et les premiers visuels des révolutions arabes. Elles sont réalisées par des auteurs anonymes, comme c'est souvent le cas depuis plusieurs décennies, et à de rares exceptions près, elles deviennent la norme depuis le passage au numérique et surtout la diffusion par Internet et la vision sur des écrans.
Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Vers quel modèle allons-nous?
C'est une grande question. L'avènement du numérique, la simplification de la capture et de la diffusion et la visualisation sur d'autres supports que l'imprimé, et en particulier sur des écrans, a bouleversé tous les codes, modifié tous les repères, déplacé toutes les frontières traditionnelles. On en a peu conscience aujourd'hui, mais nous vivons un moment unique et historique de l'histoire de la communication. En effet, lorsque Johannes Gutenberg achève les quelques 10 exemplaires de la Bible en 42 lignes, dite Bible de Gutenberg, il lègue à l'humanité l'invention de l'imprimerie qui révolutionnera la diffusion de la communication, du savoir et de l'information. Aujourd'hui, l'arrivée des nouvelles technologies vient dans un même temps modifier les outils de capture, mais aussi en même temps les supports de diffusion. D'autre part, l'invention a en quelque sorte atteint ses limites. En effet, nous avons vu que d'un côté, l'information est devenue instantanée, de l'autre, comme le titrait d'une manière prémonitoire l'exposition « Tous photographes, Présenté au musée de l'Élysée à Lausanne au printemps 2007, le médium est devenu accessible à tous en le banalisant. Une banalisation à son tour qui sert de modèle à de nombreux artistes, comme le montrait l'exposition présentée aux Rencontres d'Arles en 2011, « From Here On », à partir de maintenant. Un manifeste signé par 5 artistes et directeurs artistiques accréditant un changement profond dans les usages de la photographie engendré par la suprématie d'Internet et de la création numérique dans l'accès de la diffusion des images et redéfinissant la fonction. Ces artistes se disaient « Maintenant nous sommes une espèce d'éditeur. Tous nous recyclons, nous faisons des copier-coller, nous téléchargeons et remixons. Nous pouvons tout faire aux images. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un œil, d'un cerveau, d'un appareil photo, d'un téléphone, d'un ordinateur, d'un scanner et d'un point de vue. Et lorsque nous n'éditons pas, nous créons. Nous créons plus que jamais parce que nos ressources sont illimitées et les possibilités infinies. L'Internet est plein d'inspiration, du profond, du beau, du dérangeant, du ridicule, du trivial, du vernaculaire et de l'intime. Nos petits appareils de rien du tout capturent la lumière la plus vive comme l'obscurité la plus opaque. Ce potentiel technologique a des répercussions esthétiques. Il change l'idée que nous nous faisons de la création. Il en résulte des travaux qui ressemblent à des jeux, qui transforment l'ancien en nouveau, réévaluent le banal. Des travaux qui ont une histoire, mais s'inscrivent pleinement dans le présent. Nous voulons donner à ces travaux un nouveau statut, car les choses sont différentes à partir de maintenant. Nous sommes arrivés à un point de non-retour qui nous conduit à repenser le sens et le contenu définissant les outils et leurs finalités. Qu'est-ce que la photographie aujourd'hui dans ce monde d'images, connectées ou non? Offre-t-elle une sorte de grille de lecture du monde? Comment s'inscrit-elle ou s'inscrira-t-elle dans le monde de la création? Après la banalité, quels seront les modèles?
Merci de cette intervention qui se conclut par autant de questions et qui d'ailleurs était déjà résumé dans le titre de votre intervention sur la banalité et sur les modèles, le ou les modèles. Merci de nous laisser nous poser des questions que peut-être la salle vous reposera à son tour.
Vous venez d'entendre la communication de Bernard Perrine intitulée « La photographie entre modèle et banalité », prononcée le 28 novembre 2012 dans le cadre d'une journée à l'Académie des Beaux-Arts. Écoutez les autres interventions de ses confrères et les débats qui ont suivi, menés par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, en tapant sur le moteur de recherche de Canal Académie les noms de Claude Abeille pour la sculpture, François Chalin pour l'architecture et Pierre Caron pour la peinture, sans oublier François-Bernard Mache pour la musique.